que nous avons commencé la semaine dernière, qui se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 3. La première épître de Jean, chapitre 3 de Jean. Nous avons vu la semaine dernière un premier point. On va en voir deux autres aujourd'hui. Le premier point qu'on a vu la semaine dernière, c'était notre dignité. Notre dignité, c'est-à-dire ce que nous sommes. Et on a vu que finalement, nous n'étions pas n'importe qui, que nous étions, Jean nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ça, c'est ce que nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et le texte, on a regardé ensemble le mot grec, que voulait dire le mot amour ici dans le contexte. Et lorsque Jean dit, voyez de quel amour le Père vous a témoigné, il nous a rappelé que c'était pas un amour qui venait d'en bas, qui était terrestre, mais c'était un amour qui était céleste. D'où l'importance de naître de nouveau, parce que le Seigneur nous a dit, le Seigneur Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes mes disciples. Le problème, c'est que quand on le lit, qu'on n'a pas nécessairement le contexte grec ou l'arrière-plan grec de ce que Jean écrit, on pense que c'est l'amour qui se passe entre êtres humains, c'est-à-dire, je dis je t'aime, tu m'aimes, et puis bon, je te rends service, ainsi de suite. Mais Jean on a vu la semaine dernière, que Jean nous rappelle que cet amour, eh bien, il vient d'en haut. Et lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème qu'il faut naître d'en haut, eh bien, c'est cet amour-là que nous recevons lorsque nous passons par une nouvelle naissance. Et cet amour, eh bien, il n'est pas terrestre, il est céleste, et c'est pour ça qu'il est impossible, nous sommes incapables de décrire cette paix et cette joie qui entre en nous quand nous faisons cette rencontre personnelle et intime avec la personne de Jésus-Christ. C'est un amour d'en haut. Alors, l'amour d'en haut ne cherche pas son propre intérêt. Et un des signes pour lesquels on peut savoir si on est né de nouveau, c'est qu'avant la nouvelle naissance, on a cet amour qui vient du premier Adam, que le premier Adam nous a laissé. C'est un amour qui est égoïste. C'est un amour qui pense à lui. C'est un amour, même s'il aide les autres, c'est d'avoir lui. Hein. Derrière ça, c'est chercher sa gloire à lui. Il ne peut pas chercher la gloire de Dieu puisqu'il ne connaît pas Dieu. Alors, il cherche sa propre gloire, c'est un amour égoïste. Et à la nouvelle naissance, le miracle qui se passe, c'est que Dieu transforme, change, bouleverse nos cœurs, et cet amour du premier Adam, il est chassé pour être remplacé par l'amour du dernier Adam, qui est la personne de Jésus-Christ. Et cet amour, la parole nous dit à travers l'apôtre Paul, qu'elle ne cherche pas son propre intérêt, et qu'elle vit non pas pour se servir des autres, mais qu'elle vit pour être au service des autres, comme Jésus-Christ l'a fait. Et il nous l'a très bien montré, on a vu ça il y a 3 semaines et un mois, une des dernières actions que Jésus a faites avant d'être arrêté, c'est qu'il il a enlevé ses vêtements du dessus, il a gardé ses sous-vêtements, il s'est mis un linge autour de sa taille, il s'est agenouillé et il a lavé les pieds de ses disciples et il a dit, comme je vous ai fait, faites la même chose. Et frères et sœurs, ça c'est l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. C'est un amour qui vient d'en haut, un amour qui est transmis à ses enfants qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire cet amour de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous sommes participants de la nature divine. Parce que Dieu, dans sa grâce, nous a donné son amour, il a déversé son amour. Pas l'amour qu'on va chercher plic-ploc dans le monde, chez les meilleurs individus possibles, mais son amour. C'est extraordinaire, c'est un miracle. Et c'est pour ça qu'on dit que la nouvelle naissance, c'est un miracle. Et c'est pour ça qu'on est capable d'aimer ceux qui nous maltraitent. C'est pour ça qu'on est capable de tendre la joue gauche quand on nous frappe sur la joue droite. C'est pour ça qu'on est capable de prier pour nos ennemis. C'est pour ça qu'on est capable de prier pour ceux qui nous persécutent. Pourquoi? Parce qu'humainement parlant, c'est impossible. Dieu doit avoir déversé son amour en nous pour que nous soyons capables de mettre en application ces paroles que Jésus nous a laissées dans le sermon sur la montagne. Dites amen à ça. Et ce matin, eh bien, je vous invite on va regarder la deuxième partie. Ça, c'était la semaine passée, c'était notre dignité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Aux yeux des gens, vous êtes peut-être rien. Mais aux yeux de Dieu, rappelez-vous, c'est ce qui est le plus important. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes de sang royal. Jésus est appelé votre frère. Et la parole nous dit dans Hébreux que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et il est le fils premier-né, c'est-à-dire le fils aîné de toute cette génération de chrétiens qui se rajoutent à l'Église et qui deviennent les frères de Jésus-Christ. Amen. C'est incroyable quand vous pensez à ça. C'est extraordinaire. Quand on commence à méditer les Écritures, on se dit, mais voyez de quel amour, de quelle sorte d'amour, de quelle manière Dieu nous a montré qu'il nous aimait. C'est un amour qui ne vient pas d'en haut, et qui ne vient pas d'en bas, c'est un amour qui vient d'en haut, un amour qui est incompréhensible pour le cœur de l'être humain qui n'est pas passé par cette nouvelle naissance. Et dans la première épître de Jean, chapitre 3 ici, une épître écrite par le disciple que Jésus aimait. Eh bien, on va lire les versets 1 à 3. La semaine passée, on a vu le verset 1. Aujourd'hui, on va voir le verset 2 et on va voir le verset 3. Et cette étude ce matin, eh bien, on va poursuivre ce matin ce que nous avons commencé la semaine dernière et qui traite de la merveilleuse communion que nous avons avec le Seigneur ici-bas, en attendant de poursuivre cette merveilleuse communion avec le Seigneur là-haut. Et j'ai dit la semaine passée, il ne faut pas se faire d'illusions, vu que la nouvelle naissance est un miracle, la paix et la joie qu'on reçoit ici-bas, elle ne sera pas transformée là-haut, c'est la même. Alors, il y a des chrétiens qui attendent, qui ne bougent pas, qui attendent... Pardon, je suis en train de brancher mon micro, ça va, non? Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils attendent que le Seigneur revienne. Pourquoi? Parce qu'ils vont recevoir cette paix, cette joie qui est inexprimable. Non, vous l'avez déjà reçue. J'ai dit la semaine passée que c'est simplement votre environnement qui va changer. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de cette terre, ça va être une nouvelle terre. Et cette paix, cette joie que vous avez reçue, vous l'avez reçue maintenant. Et c'est avec ça que vous allez vivre pour l'éternité. Mais vous serez toujours dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas un nouveau miracle qui va se produire, une nouvelle transformation en dehors du corps physique. Il n'y a pas d'autre transformation. On a déjà reçu cette paix et cette joie, frères et sœurs. Le problème, c'est que si on n'a pas compris qu'on est participant de la nature divine, on va toujours se trouver comme des faibles créatures, des gens qui sont toujours en train de tomber, des gens qui se lamentent toujours parce que Jésus n'est pas revenu, et puis qui sont incapables de faire quoi que ce soit alors qu'on a des promesses dans la parole qui nous dit que nous pouvons tous par celui qui nous fortifie. Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien, c'est des choses importantes à saisir, ça. Et Jean nous dit, vous êtes des participants de la nature divine. Essayez de méditer là-dessus. Pas Jean, c'est Pierre qui dit ça. Essayez de méditer là-dessus. Je suis participant de la nature divine. Je ne suis pas Dieu. Mais ce que Dieu possède en lui, dans sa grâce, il a voulu le déverser en moi. Je ne suis pas omniprésent, je ne serai jamais omnipotent, je ne serai jamais omniscient. Mais par contre, ce qui est à l'intérieur du cœur de Dieu, Dieu a voulu le déverser en moi à travers Jésus-Christ. C'est extraordinaire quand on pense à ça. D'où l'importance de méditer les Écritures. Je le répète depuis 15 ans maintenant, c'est ma 15e année. L'importance de méditer les Écritures. C'est votre fondement, c'est votre fondation quand il arrivera quelque chose. Pour ceux qui doutent de leur salut, méditez les Écritures, vous allez chercher votre assurance. Amen. Voyez quel amour le Père nous a aimé. Écoutez attentivement la suite. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous deviendrons ne s'est pas encore manifesté. Cependant, nous savons ceci, que lorsque le Christ paraîtra, quelle belle promesse, frères et sœurs, vous deviendrez semblables à lui. Pas intérieurement, puisqu'on a tout reçu. Extérieurement. J'ai dit la semaine passée que la seule chose qui nous reste à être rachetée, c'est notre corps. Continue à vieillir. Si ça avait été racheté maintenant, on ne vieillirait plus. On aurait déjà notre corps éternel. C'est la seule chose qui nous reste à être rachetée. On a été rachetés de nos péchés. On est des nouvelles créatures en Jésus-Christ. On a reçu la joie et la paix qui vient de Dieu. Et tout ce qui reste à être racheté, c'est notre corps mortel. Et lorsque le Seigneur reviendra, il va nous transformer. 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit l'apôtre Paul, transformer en un clin d'œil. Nous recevrons le même corps glorifié que Christ avait. Et ici, Jean dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous deviendrons ne s'est pas encore manifesté. Cependant, nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se rend pur comme Jésus-Christ est pur. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois d'avoir fait de nous, Seigneur, des personnes qui sont participants de ta nature. Seigneur, merci de t'être révélé dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, pour cette famille spirituelle que tu nous as donnée. Merci pour les frères et sœurs en Christ que tu nous as donnés. Et Seigneur, nous voulons te prier ce matin, en sachant que tu es présent au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. à toute personne ici présente sans exception. Seigneur, je te prie de faire en sorte que ceux qui ne te connaissent pas à travers ce message ce matin puissent s'interroger, se poser des questions sur leur avenir. Non pas sur leur avenir immédiat, mais sur leur avenir éternel. Sur l'au-delà. Parce que tu nous dis que peu importe que les gens croient ou ne croient pas en toi, tous comparaîtront devant toi. Seigneur, je te prie de bénir cette assemblée ce matin, de bénir ta parole. Et que ce ne soit pas l'homme qui prenne ta place, mais que toi, à travers, par ton Saint-Esprit, tu puisses vraiment parler à chacun de nos cœurs, en particulier à celui que tu as invité à la partager au corps de Christ. Et c'est en son nom que je te prie, Père. Amen. La semaine dernière, j'ai mentionné qu'il y avait trois choses que nous retrouvons dans ce passage que je voulais partager avec vous. Nous avons vu la première qui est la dignité chrétienne du chrétien. Ce matin, nous allons voir les deux dernières choses. Nous avons déjà vu ensemble en quoi consistait la dignité du chrétien. Je vais vous en décrire un petit peu. C'est-à-dire que nous sommes unis à Jésus-Christ. Et cette semaine, nous allons voir deux choses aussi importantes. Nous allons d'abord parler de la destinée du chrétien. C'est-à-dire ce que nous serons ou ce que nous allons devenir. La semaine passée, la dignité, ce que nous sommes. Et maintenant, on va parler de la destinée du chrétien, ce que nous serons. Ce qui est extraordinaire, eh bien, Jean, dans les trois versets, nous parle, on n'a pas besoin de courir à droite et à gauche avec une concordance dans la parole. Dans les trois premiers versets de la première épître de Jean, chapitre 3, Jean nous donne les trois réponses. Lisons ensemble le verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous nous verrons tel qu'il est. » N'est-ce pas une affirmation incroyable? Dans un premier temps, ce que Jean nous dit ici, c'est qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Et cela devrait nous réconforter de savoir qu'il y a des choses que nous ne sommes pas supposés savoir. Et que quand on ne le sait pas, on ne devrait pas inventer. Frères et sœurs, une bonne façon d'être un bon témoignage pour le Seigneur Jésus, c'est simplement de dire ce que nous savons, et non pas ce que nous ne savons pas aux gens. Certains ont peur de témoigner parce qu'ils craignent que quelqu'un leur pose une question dont ils ne connaissent pas la réponse. Vous n'avez pas à vous en faire. Permettez-moi de vous donner la réponse parfaite. Simplement répondre, je ne sais pas. J'entends des gens raconter, il y a des chrétiens qui m'ont déjà raconté ce qui m'attend, ce qui attend les gens lors de l'Apocalypse, ce qui va avoir de l'autre côté, alors qu'on ne trouve pas ça nulle part dans la parole. On n'attirera pas les gens avec des légendes, avec des mythes, avec des histoires farfelues. On attire les gens en leur parlant de la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Après, le nuage commence à se dissiper. Ils ont le Saint-Esprit en eux, le Saint-Esprit commence à leur enseigner la vérité. La vérité, elle se trouve dans la parole. C'est une lampe qui éclaire les gens. Et les gens, à ce moment-là, eh bien, après avoir rencontré Jésus-Christ, ils veulent apprendre à connaître ses promesses. Et après ça, non seulement leur dignité, mais leur destinée. Pardon. N'est-ce pas là une bonne réponse? Si vous dites aux gens que vous ne connaissez pas la réponse, lorsque vous ne connaissez pas la réponse, peut-être alors qu'ils vous croiront lorsque vous leur direz ce que vous savez sur certaines choses. Le scénariste américain Will Rogers a dit que les hommes ce monde ne montrent pas leur ignorance. Will Rogers a dit que les hommes ne montrent pas leur ignorance en ne sachant pas beaucoup de choses, mais ils montrent plutôt leur ignorance en faisant croire qu'ils connaissent beaucoup de choses, alors que ce n'est pas le cas. On dit ça ici, c'est un Joe qui sait tout, non? Joe sait tout. Vous connaissez Joe sait tout? Ah, vous allez sûrement rencontrer une fois dans votre vie. C'est quelqu'un qui connaît tout. Il sait tout. Il sait tout pour pas montrer qu'il sait rien. Et c'est quelqu'un qui en invente. On dit chez nous que Joe sait tout, c'est quelqu'un qui croit même ses mensonges. Ça, c'est Joe sait tout. Moi, j'en ai déjà rencontré à mon âge. Vous allez sûrement rencontrer vous aussi à un moment donné, ceux qui sont plus jeunes. Les Joe sait tout. Le problème, c'est que quand on dévoile des choses qui n'existent pas dans la parole, on perd notre crédibilité. Quand on veut raconter la vérité aux gens, les gens ne nous croient plus. Parce qu'on a déjà détruit notre crédibilité. Il y a certaines choses concernant le futur dont nous n'avons pas les réponses parce que nous ne le savons tout simplement pas. Et il y a beaucoup de choses sur ce qui nous attend dans le futur que nous ne connaissons pas. Vous n'avez donc pas à vous en faire avec cela. Dieu a ses raisons pour ne pas nous avoir tout dévoilé. Et une des principales raisons, je l'ai déjà dit, pourquoi Dieu ne nous a pas tout dévoilé, c'est que vous n'auriez pas besoin de la foi si Dieu nous avait tout dévoilé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on... Et... Si. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul qui a été enlevé jusqu'au paradis. Il dit, quelle grande humilité, hein, il dit qu'il ne sait pas s'il a été réellement enlevé ou s'il a eu une vision. C'est intéressant ça qu'il nous dit ça. Il aurait pu se bomber le torse, dire, ben moi j'ai été enlevé, transporté dans mon corps mortel, dans le paradis, puis déboiler tout ce qu'il avait vu, quoi. Non, avec humilité. Il dit, je sais pas si j'ai été enlevé ou si c'est une vision que j'ai eu cette révélation. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2 à 4, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Quand on sait pas quelque chose sur le futur, on doit dire la même chose aux gens. Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Paul nous donne un bel exemple ici. Dieu seul le sait. Vous ne convaincrez jamais les gens vous amènerez jamais les gens à la conversion en parlant de l'Apocalypse. Vous n'amènerez jamais les gens à la cause de Christ en vous débattant avec évolution et création. C'est trop fort pour la nature humaine. Il faut avoir la foi pour croire que c'est Dieu qui a créé toute chose en 6 jours. Merci de nous rappeler que les GSM doivent être fermés durant le culte. J'avais dit à Stanny de nous informer. Merci. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jean, chapitre 16, verset 12. Jésus a dit, j'ai beaucoup encore de choses à vous dire. Regardez ce qu'il dit. Mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Et je pense que le but de Dieu de ne pas nous avoir tout dévoilé, frères et sœurs, c'est pour nous éviter de dévier sur des choses qui sont de moindre importance que le salut en Jésus-Christ. Vous imaginez s'il nous avait dévoilé des choses vraiment particulières dans le ciel, des choses vraiment particulières qui va se passer sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux. En tant qu'être humain, on risquerait de s'accrocher sur ces choses-là et de détourner nos yeux sur ce qui est essentiel dans la parole, sur la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur connaît nos limites, il connaît nos travers, il connaît nos faiblesses. Et il y a des choses qu'il n'a pas cru bon nous dévoiler. C'est simplement parce qu'il nous en a donné suffisamment pour qu'on garde nos yeux centrés sur la croix, sur la personne de Jésus-Christ. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Dieu dit à Daniel, « Toi, Daniel, garde secret ce message. Ne révèle pas le contenu de ce livre avant la fin des temps. » Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. À quoi rassemblerons-nous quand nous serons au ciel? Quel âge aurons-nous? Qu'est-ce que nous mangerons? Ça me fait rire, hein? À l'étude biblique l'année passée, les gens ont lu dans Ésaïe qu'il y aurait des enfants, que le lion côtoierait l'agneau, que le serpent, tout le monde se promènerait ensemble. Et là, les gens me disaient, « Pasteur, est-ce que moi je vais revenir dans le royaume de Dieu comme un enfant? Est-ce que je vais avoir 3 ans, 5 ans? Ou si je meurs à 80, est-ce que je vais avoir de l'air de 80? » Quoi, t'as pas de préoccuper de ça? Dans le royaume des cieux, dans l'éternité, l'âge compte plus. Celui qui a 80, il va être aussi en santé que celui de 3 ans. Celui qui a 80 va être capable de courir aussi vite que celui qui a 3 ans. Et vous voyez pourquoi Dieu va décider de tout nous révéler, hein? Parce qu'on serait tordu pour dire à l'autre, « Hey, moi j'ai eu ma réponse. Toi, tu vas vieillir, tu vas avoir 100 ans dans le royaume de Dieu, puis moi je vais avoir 18 ans, tout le temps. » Non? Hey, le Seigneur, il nous connaît, frères et sœurs. Et ce qu'il nous a donné, c'est assez épais pour qu'on ait besoin de plus qu'une vie pour comprendre ce que Dieu nous a donné. Un grand homme de Dieu, avant de mourir, a dit, pendant mes 60 dernières années, un homme qui méditait les Écritures 10 à 12 heures par jour a dit, je n'ai fait qu'effleurer la parole de Dieu. C'est pas un roman, c'est la parole de Dieu. Relis le verset 100 fois, Dieu trouvera le moyen de nous parler différemment à travers ce même verset. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous lisez 12 à 15 heures par jour votre parole, mais c'est un bel exemple de Jonathan Edwards qui passait 12 à 13 heures par jour à méditer les Écritures et qui disait avant de mourir, je n'ai fait qu'effleurer la parole de Dieu. Extraordinaire, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un trésor terrestre incroyable pour qu'on puisse vivre une communion intime avec lui. Quel âge aurons-nous? Qu'est-ce que nous mangerons? Vous ne savez pas. N'essayez même pas de répondre à ces questions, frères et sœurs. Chers amis, un garçon de 4 ans peut vous poser des questions que personne ne peut répondre à l'exception de Dieu. Vous savez, les enfants, quand ils rentrent dans la période du pourquoi, hein? Pourquoi? Je vais être papy bientôt, je m'attends à avoir des pourquoi. Puis cette période où on n'est pas capable de répondre à tout, où ça nous tombe sur les nerfs, on dit, mais pourquoi qu'il me demande pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, papa, moi, je suis un garçon et pas une fille? C'est vrai, non? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il fume et toi, tu fumes pas, papa? Pourquoi lui, il boit, toi, tu bois pas, papa? Et ça te tombe sur les nerfs, parce que c'est un derrière l'autre. Hein, et pourquoi? Après ça, c'est les périodes des noms. Période de oui, une période de non. Et les enfants, ils ont le don de nous poser des questions qui peuvent même nous laisser bouche bée. Alors, essayons pas d'expliquer à quoi nous ressemblerons dans notre corps de ressuscité. Je ne le sais pas de façon très claire. Tout ce que la Bible nous dit, c'est qu'on aura le même corps, un corps glorifié comme celui que Jésus avait. Nous en avons une vague idée parce que nous avons quelques indices, mais le mystère demeure. Mais il y a des choses sur lesquelles nous sommes certains. Par exemple, nous serons comme Jésus et cela me suffit, frères et sœurs. Jésus dit, ce que nous deviendrons ne sera, Jean nous dit, ce que nous deviendrons ne sera pas encore manifesté. Cependant, nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. En fait, il y a trois choses qui sont mentionnées ici sur lesquelles nous pouvons être certains. La première chose que nous pouvons être certains dans le texte ici que Jean nous donne, c'est que Christ va un jour apparaître. Amen. Qui lève la main là-dessus? J'espère parce que c'est une doctrine fondamentale de l'Évangile. Jésus vient au monde, Jésus meurt pour nos péchés, Jésus ressuscite, monte au ciel et il va revenir. Jésus va revenir sur la terre. Jean ne dit pas s'il doit apparaître, il apparaîtra, mais lorsqu'il apparaîtra, Christ reviendra sur la terre. Frères et sœurs, cela ressemble à un drame en 5 actes. Premier acte, la naissance de Jésus à Bethléem. Deuxième acte, le jeune Jésus à Nazareth. Troisième acte, le prédicateur et celui qui fait des miracles. Quatrième acte, il y a le Fils de Dieu qui est crucifié. Cinquième acte, il y a le Christ qui ressuscite et qui monte au ciel. Puis le rideau se referme. C'est le premier acte en 5, pardon, c'est le premier acte en 5-5. Et maintenant, nous attendons que le dernier acte, le second acte, commence. Et Christ est là, debout dans les coulisses, prêt à faire un pas sur la scène de l'histoire humaine. Seulement, le but n'est pas de faire croire ici, ce n'est pas de faire semblant que c'est un drame, mais que c'est une situation bien réelle. Jésus, frères et sœurs, il monte au ciel, il va revenir dans sa gloire, et une deuxième fois sur la terre, pardon, comme il l'a fait littéralement, la première fois de façon visible. En fait, Christ reviendra bientôt, vous pouvez miser là-dessus, Jésus revient bientôt. Il apparaîtra, et ça, c'est une chose à laquelle nous pouvons être certains. Vous dites amen à ça? Certains. La deuxième chose dont nous pouvons être certains dans ce texte, c'est que nous le verrons tel qu'il est. C'est ce que Jean dit ici. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Remarquez ce qu'il dit ici. Non pas comme il était, mais comme il est maintenant. Non pas dans un corps humain, mais dans un corps glorifié. Et pour le voir dans un corps glorifié, on va devoir être semblable à lui. C'est ce que Jean nous dit. Jean ne dit pas comme il était lorsqu'il était ici dans son humanité, lorsqu'il marchait sur les rives poussiéreuses de la Galilée, à l'époque où ici-bas il apportait une couronne d'épines. Jean dit que lorsque nous le reverrons, nous le reverrons une fois encore dans son corps resplendissant. La semaine dernière, frères et sœurs, je vous ai parlé de cette prière faite par Jésus dans Jean chapitre 17. Parfois, il suffit de lire, de relire et de relire encore Jean 17 parce que cela nous concerne. Cela vous concerne et cela me concerne. Jésus-Christ est en train de prier pour vous et pour moi dans ce chapitre. Et voyez ce qu'il dit dans sa prière au verset 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant même que Dieu crée le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Avant même que Dieu insuffle dans les narines de l'homme, le souffle de vie. Le Seigneur Jésus-Christ était dans le sein du Père glorifié. Et il dit ici, Père, je suis maintenant prêt à retourner auprès de toi. J'ai manifesté ta gloire sur la terre.
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, Père, donne-moi ta présence, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Écoutez maintenant ce que Jésus ajoute dans sa prière au verset 24 du chapitre 17. Père, tu m'as donné Rudy, tu m'as donné Michael, tu m'as donné Nadia, tu m'as donné Pina, tu m'as donné Lilo. Regardez ce qu'il dit. Et je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Intéressant, c'est sûr que j'ai nommé les noms qui ont dit Amen. Ceux que tu m'as donnés, Stanny, Régine, Samuel, Danny, Marie-Claire, Hermès, Jean, Hélène, tous les autres. Je veux qu'ils participent à ma gloire. Ils sont participants de la nature divine. Je veux qu'ils participent à ma gloire. Je suis éternel. Je veux qu'ils soient éternels. Quel passage! Nous avons tous quelqu'un que nous avons aimé qui est au ciel. Mais est-ce que vous savez ce qui me bénit encore plus, frères et sœurs? Ce ne sont pas les rues pavées d'or ou les portes en perles de la Nouvelle Jérusalem. Non, c'est que les frères et sœurs qui sont auprès du Seigneur contemplent la gloire de Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer cela? Rappelez-vous ce que Jean écrit et que nous savons avec certitude. Lorsque Jésus paraîtra, nous deviendrons semblables à lui. Premièrement, il va apparaître. Deuxièmement, nous allons le voir. Et troisièmement, nous deviendrons semblables à lui. Regardez encore une fois au verset 2. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Remarquez qu'il relie ensemble, Jean relie ensemble l'expression « Nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. » Non seulement nous serons transformés, mais on va le voir tel qu'il est. Il revient dans sa gloire, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que si vous deviez le voir à l'instant même, vous seriez désintégré? En d'autres mots, vous ne pourriez pas le supporter dans votre corps mortel si vous n'êtes pas transformé. Vous ne pourriez pas le regarder. Je méditais à 1 Timothée, chapitre 6, les versets 14 à 16. Ce passage est sûrement un de mes passages favoris. Paul est en train de dire à Timothée de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de parler de la même chose que Jean nous parle ici dans ce passage, et il dit à Timothée, garde le commandement, et vis sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il dit. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir. En d'autres mots, Jésus habite une lumière dont personne ne peut s'approcher. Arrêtons-nous pendant quelques instants. Jésus habite une telle gloire que vous et moi, frères et sœurs, ne pouvons même pas penser nous y approcher. Nous avons déjà envoyé quelqu'un sur la Lune. Est-ce que vous pensez qu'un jour nous pourrons envoyer quelqu'un sur le Soleil? Non, car personne ne peut jamais s'approcher du Soleil. Le Seigneur Jésus habite une lumière inaccessible que nul homme a vue et que personne ne peut voir. Si nous mettons ces deux passages ensemble, est-ce que vous savez ce que cela signifie? Cela signifie, frères et sœurs, qu'un jour nous serons comme lui afin de pouvoir le voir tel qu'il est. Ce que je veux dire, c'est que si nous ne devenons pas semblables à lui, nos yeux ne pourront pas supporter cette lumière qui est inaccessible au commun des mortels. Mais nous deviendrons semblables à lui et nous allons le voir tel qu'il est. Amen. C'est une belle promesse ce matin. Belle promesse. C'est une promesse, ça. Le problème, c'est qu'on lit les Écritures souvent, on ne découvre pas les promesses qui sont dedans. Vous savez pourquoi les gens pleurent quand il y a un enterrement? Dehors, dans le monde? Parce qu'ils savent où les gens s'en vont. Ils ont la conviction que c'est la dernière fois qu'ils les voient. Pourquoi on est triste quand on perd un bien-aimé? C'est pas parce qu'on sait pas où il s'en va. C'est parce qu'on est privé de sa présence pendant quelques instants, pendant un certain temps. Mais il y a quand même une joie qui reste dans notre cœur parce qu'on sait qu'un jour on va le revoir. Mais le commun des mortels à l'extérieur, je pense que c'est la dernière fois. Ma grand-mère était pas croyante, était religieuse. Et quand son mari est mort, eh bien, il a fallu le retenir. On était 4-5. Pour moi, quand j'étais tout petit, ils ont dû, je me souviens très bien qu'ils étaient 4-5. la retenir pour pas qu'elle se jette sur le cercueil de mon grand-père. Elle veut mourir avec lui. Elle pensait qu'en se faisant enterrer vivante avec lui, elle passerait l'éternité avec lui. Elle ne savait pas où il s'en allait. Elle était convaincue que c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Quelle tristesse! Elle a peut-être vécu 60 ans avec lui. 60 ans qui s'effaçaient d'un coup. C'était terminé. Frères et sœurs, on est ensemble pour un certain temps. Et on est appelés à passer l'éternité ensemble. Pas parce qu'on est des bonnes personnes. Parce que Christ a payé le prix. Il nous permet de se voir ouvrir les portes du royaume des cieux. Amen. Frères et sœurs, un jour Jésus va apparaître et nous le verrons tel qu'il est. Voilà pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 17:15, « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassaisirai de ton image. Si vous me demandiez à quoi ressemblera votre corps glorifié, à quoi ressemble le ciel, je ne serais pas en mesure de vous répondre, frères et sœurs. La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que vous ne serez pas déçus parce que vous serez semblables à lui. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face, dit le psalmiste. Dès le réveil, je me rassaisirai de ton image. Nous avons parlé de notre dignité, ce que nous sommes en étant unis à Christ. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons parlé de notre destinée, ce que nous deviendrons. Nous serons semblables à lui. Et le dernier point ce matin que traite Jean qui parle de notre devoir, c'est-à-dire ce que nous devrions être ou comment nous devrions nous comporter en attendant son retour. Lisons le verset 3 ensemble. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Chers amis, c'est une chose de parler de notre dignité et de notre destinée. Ne pensez-vous pas qu'il serait pertinent de parler de notre devoir? Ne pensez-vous pas que nous devrions dire « Qu'est-ce que cela signifie pour moi et pour vous? » Quiconque a cette espérance en lui, dit Jean, se purifie comme lui-même est pur. Permettez-moi de mentionner certaines choses concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui devrait être une réalité dans nos vies. Premièrement, vous devez espérer sa venue. Quiconque a cette espérance, dit Jean. Quiconque a cette espérance. Est-ce que vous savez ce que le mot espérance signifie? Le mot espérance dans la Bible signifie une certitude absolue mêlée d'une impatience grandissante. Ça, c'est ce que le mot espérance veut dire. Une certitude absolue mêlée d'une impatience grandissante. Lorsque nous amenions, je me souviens que lorsque nous amenions les enfants en balade et qu'il arrivait parfois qu'ils se chamaillaient sur la banquette arrière de la voiture, je leur disais alors que lorsque nous arriverions à la maison, ils seraient disciplinés. C'était une certitude pour eux, mais pas nécessairement quelque chose qu'ils attendaient avec une impatience grandissante ou qu'ils attendaient avec une grande joie. Frères et sœurs, la venue de Jésus est une certitude divine, mais elle est d'un sentiment d'impatience qui dit « Je peux difficilement attendre ce retour parce que je sais que je serai toujours avec le Seigneur. » C'est ce que Jean est en train de nous dire ici. Si vous lisez le texte grec, c'est exactement ce qui en ressort. Et vous et moi, nous devrions désirer ardemment son retour. Non seulement devons-nous avoir envie de voir son retour se concrétiser, mais nous devrions vivre en fonction de sa venue immédiate. Remarquez maintenant ce que Jean dit au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Première question qu'on se pose. Quiconque a cette espérance en lui fait quoi? Il se purifie. Regardez ce qui est écrit au chapitre 2, verset 28. 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Je ne parle pas de la perte ou de l'assurance du salut, je vous dis ce que Jean cite ici. Il parle à des enfants de Dieu, il parle à mes petits enfants. Demeurez en lui, ça veut dire quoi demeurer en lui? Jésus l'explique très bien dans l'évangile de Jean. C'est quelqu'un qui obéit à Jésus-Christ. Lorsque nous avons de l'assurance, et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, vivez conformément à ce que Jésus vous a enseigné, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ayez de l'assurance, que vous ne soyez pas honteux, qu'à son avènement, à son retour, vous ne soyez pas confus, ne faites pas de perte du salut, regardez ce qu'il dit, et que vous ne soyez pas éloignés de lui. C'est pas moi qui le dis, hein? Moi, je vous parle pas de la perte de l'assurance du salut ce matin. C'est Jean qui le cite, hein? Vous pouvez l'interpréter à votre façon. Afin que vous ne soyez pas éloignés de lui. Ouais. Le Seigneur n'est pas exigeant. Il nous a tout donné pour vivre conformément selon sa parole. Nous sommes participants de la nature divine. Frères et sœurs, êtes-vous vraiment prêts pour sa venue aujourd'hui? Est-ce que votre cœur est pur? Ou est-ce qu'il y a de la haine, de la rancune, de l'amertume et du non-pardon qui habite dans votre cœur ce matin? Y a-t-il dans votre cœur une habitude qui vous empoisonne la vie? Réfléchissez-y, afin de ne pas être éloigné de lui quand il reviendra. Si vous saviez ou si vous aviez la certitude que Jésus revenait cet après-midi, apporteriez-vous des changements dans votre façon de vivre? Si oui, alors je vous invite à le faire, parce que vous ne savez pas quand Jésus va revenir. Car quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous devez désirer que ce soit aujourd'hui, et vous devez vivre en fonction de sa venue aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, c'est-à-dire en poursuivant cette vie que Dieu nous demande de vivre en Jésus-Christ, en la crainte de Dieu. N'est-ce pas merveilleux de dire lorsque nous prions, Seigneur, que rien ne vienne ternir ma relation avec toi. Et qu'on cite ce fameux psaume, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je marche sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur le chemin qui mène à l'éternité. Les deux psaumes plus loin disent que ton bon esprit m'enseigne ta vérité. Afin que je ne devienne pas négligent dans ma vie chrétienne. Et que je n'écoute pas tous ces mensonges du diable. Qui voudraient faire en sorte que le jour où tu reviendras, je sois éloigné de toi. Vous dites peut-être, pasteur, en autant que je suis certain d'aller au ciel, moi j'ai la paix, peu importe que je m'y rende en deuxième classe, cela, ça me satisfait. Eh bien, cela ne me satisferait pas, moi. Cela ne satisferait pas le Seigneur. Et je suis convaincu que cela ne vous satisferait pas. Est-ce que vous savez comment je sais que je suis sauvé? Savez-vous pourquoi je veux vivre une vie sanctifiée? Non, pas parce que j'ai peur de ce que Dieu fera avec moi si c'était le cas. Permettez-moi de vous démontrer cela par une histoire. Les adolescents s'étaient retrouvés ensemble et un d'entre eux suggéra de faire quelque chose qu'il était défendu de faire ou qu'il savait qu'il ne devrait pas faire. Une jeune fille qui vivait une relation étroite avec Dieu répondit, « Moi, je ne veux pas faire cela. » Et un des adolescents commença à la taquiner en disant, « Oh, t'as peur que ton père te gronde hein, quand tu vas rentrer. » C'est ça, hein, n'est-ce pas? Elle répliqua, « Non, je crains plutôt de faire de la peine à mon père. » Est-ce que vous voyez ici la différence entre la loi et l'amour, frères et sœurs? Vous savez pourquoi je suis convaincu que je suis sauvé? Parce que quand je tombe, c'est pas que j'ai peur d'aller en enfer, je vous l'ai dit la semaine passée. Ça, c'est la loi. Quand je tombe, je sais que je fais de la peine, que j'attriste le cœur de mon Père céleste. Et ça me chagrine aussi de savoir que, parce que je suis tombé, j'ai fait de la peine à mon Père céleste et que j'ai oublié les promesses qui sont miennes dans la parole. Je suis participant de la nature divine et je pue tout par celui qui me fortifie. Je suis tombé parce que j'ai mis Jésus de côté et j'ai essayé par mes propres forces de vivre comme il me demandait. Il est impossible de résister au mal si on ne demeure pas unis en Jésus-Christ. Unis en Jésus-Christ. C'est un mariage. Il est l'époux. Nous sommes l'épouse. Nous ne faisons plus qu'un. Et quand ça se détache, je suis laissé à moi-même. Ma nature humaine reprend le dessus. Et le diable me dit, t'es capable de résister, t'es capable. Et j'oublie les promesses et je tombe. Et là, qu'est-ce qui fait le diable? C'est pour ça que les gens vivent dans le péché. C'est pour ça que les gens couchent à droite et à gauche. C'est pour ça que les gens prennent plaisir à pécher. Pourquoi? Parce que la tactique du diable, c'est d'arrêter simplement sur le plaisir que le péché t'apporte. Uniquement. Mais jamais sur les conséquences. Le problème, pourquoi on tombe, c'est qu'on aime goûter au plaisir. Et c'est parce que les conséquences viennent après. Mais c'est une promesse du Seigneur. Lorsque nous péchons, les conséquences sont soit immédiates, à moyen terme ou à long terme. Je connais des gens qui se sont moqués de moi parce que je restais fidèle à ma femme, sexuellement parlant. Pendant des années, ils s'est moqué de moi. Et eux, ben, ils en sautaient une, un autre, c'était le party. Des gens qui étaient costauds, en forme. Aujourd'hui, ils pèsent 33 kilos, ils ont un sida. Ils subissent les conséquences. Ah, ils ont eu du plaisir. Plaisir. Moi, j'ai mené une vie dissolue dans le monde. Et quand j'avais tiré mon plaisir, je peux vous dire que je n'étais pas fier de moi. Déjà, c'était une grande conséquence. Je ne connaissais pas Dieu, mais déjà, ma conscience m'accusait. Après, c'est ça, il y a toujours des conséquences au péché. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et si ce n'est pas avec le Dieu, ce sera vos propres enfants qui vont vous pointer du doigt. Hey, le bonhomme, quel droit tu as de me reprendre, toi? Tu as fait la même chose que moi. Hey, maman, de quel droit tu peux me reprendre, toi? Tu as fait exactement la même chose que moi. Tu me demandes de ne pas coucher avec mon copain. Tu as passé combien de copains dans ta vie, maman? Les conséquences nous rattrapent toujours, frères et sœurs. Amen. Voilà pourquoi Jean nous dit de vivre une vie pure. Et je vais terminer avec ceci. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, dit Jean. Il dit, quiconque, je suis un frère du Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque, garçon, fille, femme ou homme, qui affirme, bientôt, très bientôt, je verrai le roi des rois, va être trouvé pur lorsque Jésus-Christ reviendra. Nous devons désirer qu'il revienne. Nous devons chercher à vivre comme s'il pouvait revenir à tout moment. Et nous devons, frères et sœurs, être impatients, impatients de le voir revenir avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Le pasteur Adrian Rogers raconte que lorsqu'il était jeune, il entendait des prédicateurs prêcher sur le retour de Jésus-Christ. En fait, c'est quelqu'un qui est né dans l'Église, quoi. Et tout jeune, il raconte ceci. Il dit, j'entendais parler du retour de Jésus-Christ par certains prédicateurs, et je me disais, quel dommage, quelle malchance pour moi si Jésus revenait maintenant, je pourrais pas faire toutes ces choses que j'aimerais faire dans ma vie, parce que ma vie serait courtée. En 2005, juste avant que le Seigneur le reprenne, il dit que plus il voyait ce qui se passait dans ce monde, et plus il comprenait que la meilleure chose qui pouvait nous arriver à tous, c'est que le Seigneur Jésus revienne maintenant. Frères et sœurs, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses que vous pourriez laisser ici-bas. Si Jésus revenait aujourd'hui même, vous ne seriez pas perdant au change. Au contraire, vous seriez gagnant. Paul dit, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Si je meurs maintenant, je serai gagnant sur toute la ligne. Et en un clin d'œil, je serai transformé, je serai avec lui pour l'éternité, et je sais qu'il ne me décevra jamais dans tout ce qu'il a promis. Amen. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du pasteur Robert Ginny. Il a raconté aux membres de son église quelque chose qui lui était arrivé alors qu'il était tout jeune. Il vivait sur une ferme, et ce jour-là, tout le monde était parti en ville. Il se trouvait seul sur le perron avec sa mère qui était en train de tricoter. Il dit, j'étais encore qu'un gamin. J'étais couché à plat ventre. Vous savez comment les enfants se couchent, hein? Ils se couchent à plat ventre, là, puis les coudes sur les, comme ça, et puis les pieds dans les airs, les talons collés ensemble. Il était tout jeune. Il était à plat ventre sur le balcon de la vieille ferme qui les habitait. Il dit, je tenais mon menton dans mes mains, mes talons étaient collés l'un contre l'autre dans les airs. J'ai demandé à ma mère quel avait été le plus beau jour de sa vie. Je levais mes yeux vers ses mains usées par le travail dans les champs alors qu'elle continuait à tricoter. Et elle m'a dit quelque chose à laquelle je ne m'y attendais pas. Je me disais qu'elle m'aurait dit que c'était le moment où elle a rencontré mon père et qu'il lui avait annoncé qu'il l'aimait. Mais elle ne m'a pas dit que cela correspondait au plus beau jour de sa vie. Puis il a dit qu'elle pensait que c'était lorsqu'ils avaient acheté cette ferme, car à ce moment-là, c'était une ferme qui n'avait aucune valeur. Mais elle n'a pas parlé de cela. J'ai pensé que c'était peut-être lorsque mon père l'avait demandé en mariage, mais elle n'a pas parlé de ça. Il dit, je pensais que c'était au moment où ils avaient prononcé leur vœu de mariage et qu'ils ont respecté pendant plus de 50 ans, qu'ils avaient respecté pendant plus de 50 ans avant que le Seigneur leur appelle à lui. Mais elle n'a pas parlé de ce moment-là. Elle m'a répondu, fiston, je crois que le moment le plus heureux de ma vie fut celui-ci. Elle dit, il faut que je te raconte ce que nous avons vécu lorsque j'étais une toute petite fille. Donc, elle parle de sa grand-mère maintenant et de son grand-père. Il faut que je te raconte ce que nous avons vécu lorsque j'étais une petite fille pendant la guerre civile entre le Sud et le Nord aux États-Unis, où tous les hommes étaient partis à la guerre et que les femmes avaient dû rester pour travailler dans les champs, où j'ai vu ma mère travailler là-bas avec les autres femmes, dans les champs, 16 et 20 heures par jour. Nous devions nous contenter de très peu de choses. Nous récupérions le sel sur le plancher du fumoir à charcuterie. Nous faisions du thé à partir des feuilles ou des racines d'un arbre qui s'appelle le sassafras. Nous faisions quelque chose qui ressemblait à du café à partir de feuilles de maïs séchées. Et puis vint la nouvelle que ton grand-père avait été tué à la guerre. La mère du pasteur Lee lui dit, je regardais comment ma mère réagirait. Elle n'a pas crié ni versé une seule larme ce jour-là. Mais le soir, alors qu'elle venait à peine de me mettre au lit, je pouvais l'entendre pleurer dans la pièce à côté de ma chambre, alors qu'elle partageait sa peine avec Dieu. Elle m'a dit, tu m'as demandé quel avait été le plus beau jour de ma vie, je vais te le dire. Plusieurs mois après avoir appris et entendu la nouvelle que mon grand-père avait été tué à la guerre, ma mère et moi, nous étions sur le balcon en train d'éplucher des fèves. Lorsqu'elle vit un homme qui descendait de la route, elle me dit, regarde, Élisabeth, regarde cet homme là-bas comme il ressemble à ton père. Regarde comme il ressemble à ton papa. J'ai dit à ma mère, ne sois pas attristée, tu sais très bien que papa est mort. L'homme continua à marcher vers la maison, il se rapprochait de plus en plus de nous. Et c'est alors que ma mère lança les fèves en l'air et qu'elle m'a dit, « Élisabeth, c'est ton papa! » Elle se mit à courir en direction de celui-ci. Elle vit qu'il lui manquait un bras. Il lui tendit la main avec le bras qui lui restait. Il l'attira près d'elle et il l'embrassait. Il l'embrassa. Ma mère ajouta, « J'ai couru aussi vite avec mes petites jambes pouvant me transporter, serrant les genoux de mon papa pour ensuite saisir la mange du bras qui lui manquait. » Ma mère me dit alors, « Fiston, ce fut le plus beau jour de ma vie. » Puis le pasteur Lee dit ceci, « Le jour où ma mère a revu son père fut le plus beau jour de sa vie, mais ce n'est rien à comparer avec le jour, frères et sœurs, où nous le verrons lorsque Jésus reviendra et que nos yeux contempleront le roi des rois et celui qui nous a ouvert les portes de la grâce un jour nous ouvrira les portes de la gloire céleste. Amen. » Amen. Quel jour ce sera lorsque notre Sauveur apparaîtra? Frères et sœurs, notre dignité, nous sommes les fils de Dieu. Notre destinée, nous serons semblables à Jésus-Christ. Notre devoir, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Je vous invite à courber la tête et à vous recueillir.